Chapitre 14. Sébastien, à la fin de septembre, partit pour le Languedoc acheter du vin. Avec quelle impatience Mathilde attendait sa liberté. De grand matin, le dimanche, pomponnée sans éclat pour ne pas froisser la modestie de son Pierrot, elle prétexta l'obligation de faire visite à l'enfant malade d'une de ses amies de l'atelier. Malgré les gémissements de Mère Adèle, qui devenait plus ombrageuse, et les supplications de l'oncle Alcide, qui connaissait trop, lui, l'existence de son péché, elle fila, dit-elle, pour Fontenay, près de Vincennes. Pierre, à Montmartre, avait nettoyé sa chambre afin de la recevoir dignement. Dès qu'elle parut aux dernières marches de l'escalier, il s'élança vers elle, les bras ouverts. Il entraînait, odorante et légère, vers sa couche lorsqu'elle protesta. « Non, ne nous attardons pas ici. Je veux profiter de cette belle journée dans la campagne. » « Tu plaisantes, moi qui m'étais préparée. » Il eut beau la caresser des mains et des yeux, elle resta clouée sur le seuil de la porte. Il dut s'habiller complètement et, tout soupirant de déception, la suivre avec docilité. En bas, au milieu de la rue, sur le boulevard en gaieté, il ne pensa qu'à la gloire de marcher si près d'elle, dans la lumière. Ils montèrent en première, comme l'autre dimanche, à la gare de la Bastille. Jusqu'à Champigny, ils s'amusèrent, avec des tapes sur la figure, sur le cou, sur le dos, à se rappeler leur jeu du pays de Flandre. Jamais, par une sorte de scrupule, d'appréhension superstitieuse, ils ne parlaient de Sébastien, de l'honnête maison de la rue Chauchat. La chasteté de leur adolescence semblait entrer, pour eux, dans le présent et le purifier. La douceur de l'automne les attendrit, dès le bois de Vincennes, ainsi que la pourpre et l'or des feuillages, qui, découvrant les villas coquettes, se lamentaient tout bas. L'odeur de la terre mouillée les imprégna d'une mélancolie jusque dans leur âme, parmi la mort languissante des choses. C'était pourtant un dimanche d'azur limpide, de brise vagabonde, qui semait dans la plaine des rumeurs de musique et de bavardage, sortant de toutes les maisons comme les chansons des nids. La Marne, au bosquet dépouillé, réfléchissait en ses ondes lourdes les guinguettes ou les calicots grisés de vin blanc leurs amis d'une saison. Mathilde et Pierre cheminaient au hasard et derrière les arbres, ils se becquetaient furtivement. Ils s'assirent sur un talus pour se reposer, pour savourer ensemble la chaleur du même soleil qui semblait, comme leur joie, ne devoir s'éteindre jamais. Une fois que les couples paisibles, bourgeois en causerie d'affaires, passèrent sur le chemin, Mathilde hocha la tête avec un émoi d'inquiétude. Et longtemps, son visage demeura immobile, tourné vers Paris, dont la puissance aussi énorme que celle de la mer se dissimulait dans le lointain. « Oublie tout, lui dit Pierre, ne regarde que moi. » Elle lui sourit, non sans effort, afin qu'il se rassurât. Mais ses craintes d'épouse ne s'évanouissaient point. L'apparition si brusque de ces bourgeois sur le chemin avait, dans sa pensée, évoqué l'oncle Alcide. Elle se souvenait de lui avoir trop souvent parlé de ses promenades buissonnières lorsqu'elle était demoiselle, les dimanches de fête, sur les bords de la Marne, à Champigny. Elle le revoyait, au seuil de leur appartement, rue Chauchat, la suppliant, en vieux diable amoureux, de ne point le quitter. Et dans la clairvoyance de ses craintes, elle imaginait qu'il allait, guidé lui-même par la divination de sa jalousie, venir la retrouver au bras de Pierre, dans la plaine immense. « Allons déjeuner, dit-elle, nous nous cacherons bien. »« Pourquoi nous cacher ?»« Dans mon intérêt, dans le tien surtout. » Ils descendirent à pas lents vers la Marne. Sous une tonnelle, ils s'installèrent avec appétit devant un plantureux déjeuner. La saine odeur de la cuisine de campagne se répandait alentour sous les arbres déserts. Un petit chemin, tout au bord de la Marne, longeait cette guinguette dont le lierre tapissait, aussi épais qu'un mur, la barrière de bois. Personne n'y passait ce dimanche. Heureux de leur solitude, Mathilde et Pierre riaient de plus en plus. Pierre, sous la table, serrait une jambe de Mathilde entre les siennes, lorsque tout à coup, un pas inquiet apparut le long du mur. Un homme toussa d'une toux saccadée, dont le bruit aigre fit tressaillir Mathilde. L'oncle, le vieux diable de Nézignan l'évêque. Il était là, contre la tonnelle, à flairer sa nièce. Oserait-il entrer dans la guinguette ?»« Pierre, murmura-t-elle, taisons-nous. Il me semble que... » L'homme avait précautionneusement ouvert la porte à claire-voie de la barrière. Il examina sans gêne, en tapant de la canne, les entours de la maison silencieuse, fureta sous les tonnelles, découvrant enfin, sous une voûte de lierre, les deux tourtereaux qui ne bougeaient plus. Il tressaillit de fureur. À l'émotion du péril, Mathilde aussitôt recouvra son courage, de même que Pierre, qui tournait le dos à l'oncle. « En voilà une surprise !»« Et pour moi donc, répliqua l'oncle, que faites-vous là ?» Le maçon maugréé, prêt à fondre sur l'intrus. Mathilde l'arrêta. « Écarte-toi, Pierre, ménage une bonne place à mon oncle. Il déjeunera avec nous. »« Non, pas avec moi. »« Non ? Eh bien, tant pis. Si vous n'êtes pas raisonnable, je sais ce qui me reste à faire. »« Que peut-il vous rester à faire ? » ?»« Vous asseyez-vous, oui ou non, mon oncle ?» Oui, je vois bien, c'est à prendre ou à laisser. Vous seriez capable de vous livrer aux pires extravagances. Brigande, je déjeune donc ici. L'oncle remuait sa canne sur le sol avec fébrilité. Ses yeux lançaient des regards de feu. Il accrocha son chapeau à une patère. Puis, une fois à table, il commanda en maître. L'aubergiste se divertissait discrètement de cette comédie du vieux, tombant à l'improviste sur sa maîtresse en partie de débauche. Le déjeuner avait continué dans une amitié croissante. Mathilde, pour capter la bienveillance de l'oncle, se laissait parfois caresser les mains comme par mégarde. Il proféra, sans se départir de sa gravité, à propos de la société humaine, les théories les plus subversives, proclamant, ainsi que M. Jaume, l'autre célibataire, qu'il ne croyait qu'à la joie de sa carcasse et qu'il ne redoutait pour ses péchés aucun châtiment, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Pierre mangeait avec abondance, s'arrosait de tous les vins que, pour le griser, l'oncle faisait servir des terroirs les plus divers. Après le café, ils voulurent, un peu fous, se promener sur la rivière, dans la barque de la guinguette. Mathilde se posa, non sans trembler, à la proue. Pierre, assis sur le premier banc, auprès d'elle, l'oncle sur le deuxième, les deux hommes manœuvrèrent des rames, en cadence d'abord. Et la barque, balancée par les vagues, glissa rapidement. Par malheur, ils s'excitèrent à montrer chacun sa force et son adresse. La barque, déconcertée au milieu d'un remous, sauta par brusque révolte. Mathilde, dans son épouvante, essaya vainement de rappeler ses serviteurs jaloux à la raison. Plus elle criait, plus ils accéléraient, par forfanterie, leurs mouvements contraires. « Arrêtez-vous » suppliait-elle. « Je veux revenir au rivage. »« Non, petite, » répliqua Pierre, « tu vas voir que l'oncle me laisse ramer seul. » Il se dressa, ôtant sa veste pour avoir plus d'aisance. Mais la vision des brillants rivages, de la vaste campagne dorée, le troubla d'un vertige au milieu de l'eau profonde qui le berçait, et sa tête, échauffée par tant de libations, lui parut aussi lourde qu'un roc. Il perdit l'équilibre. Pour se rétablir, il sauta, pesa trop sur une jambe, avec une telle force que la barque se retourna soudain. Des pêcheurs à la ligne observaient, depuis un quart d'heure, ces noceurs en goguette défiant sautement les caprices de la rivière. Quelques-uns, dès que la barque eut chaviré, se précipitèrent à leur secours, et l'aubergiste lui-même, qui redoutait, pour la renommée de sa maison, un drame de mort. Pierre savait nager. Il aida l'oncle, croyant aider Mathilde, à se tirer des tourbillons de l'eau. Mathilde, soutenue d'abord à la surface par le flottement de ses robes, s'était ensuite accrochée au cou de l'un des sauveteurs. Enfin, après des peines sans nombre, on les ramena tous les trois sur le rivage, où, de partout, s'était ramassée une foule curieuse. « Nous voilà bien arrangés !» se désolait l'oncle Alcide, qui avait la superstition de la propreté sur ses costumes. On les assista, par charité, jusque dans la guinguette. L'aubergiste alluma dans sa chambre un feu de bois. La porte close, ils se séchèrent avec bonheur. L'oncle gémissait toujours, mais un peu moins, à mesure que Mathilde retroussait sa jupe. Pierre, satisfait qu'on ne lui adressât aucun reproche, se plaignit à son tour. Quelqu'un a dû secouer la barque pour me noyer.
C'est peut-être moi, ricana l'oncle.
Ce n'est personne, mon Pierrot, intervint Mathilde. C'est de la fatalité. Comment partirons-nous d'ici?
Ce soir, ma nièce.
Quoi? Vous restez encore avec nous, monsieur Alcide?
Oui, Pierre, je ne vous lâche plus. Nous rentrerons à Paris en voiture.
Parfait, mon oncle, et nous irons dîner à Saint-Mandé chez monsieur Jaume, qui sera glorieux de nous accueillir. En voiture, le trajet par le bois ne durera pas une heure.
Moi, je veux bien, acquiesça Pierre, qui se promettait une prouesse de faire enrager son patron de maçonnerie par ses privautés avec Mathilde.
Le soir voilait à peine la campagne, rouge de soleil sous ses parures d'automne, lorsqu'ils partirent, aussi secs tous les trois qu'avant leur baignade. L'oncle, fatigué, s'assoupit au dodelinement monotone de la voiture. Mathilde se renversa peu à peu sur les coussins entre les bras de Pierre. Sous le bois énorme, dont la feuillée accentuait encore l'obscurité de la nuit, les deux amoureux regrettèrent presque, joue contre joue, en un rêve de repos éternel, d'avoir à descendre au pavillon de M. Jaume. Quelle stupeur chez celui-ci! Bientôt, quelle allégresse! Il recevait à l'improviste, des mains de son ouvrier et d'un retraité de la province, la proie d'amour qu'il guettait depuis si longtemps. Il n'avait un dîner que pour lui seul. Mais le fourneau était allumé, on ferait vite de tuer un poulet, de frire à la poêle des cèpes en conserve. Tous les quatre, de vaillante humeur, se mirent à l'ouvrage. L'oncle, qui retrouvait sa vivacité des jours de godaille à Nézignan-l'Évêque, dans les grands jours, se chargea de tuer la volaille au fond du jardin. Pierre, dans la cuisine, alimenta le fourneau, lava les cèpes. Mathilde, les manches retroussées sur ses bras roses, un tablier blanc au rein, dressa le couvert. Elle tournait autour de la table, tantôt lissant la nappe fraîche, tantôt portant une assiette, un verre. Déjà, le maître de séance la taquinait. Elle, charmante d'hypocrisie, se dandinait lestement sous les chatouilles. Dès qu'il s'approchait trop, elle s'esquivait d'un bond de gazelle. Une fois qu'il l'avait, par surprise, saisie à la taille, Pierre apparut brusquement sur la porte et, tout en fureur, cria
« Oupla, patron !»«
Hein, quoi ?
Qu'est-ce que vous faites ?
Est-ce que ça te regarde ?» Tandis que Mathilde, indifférente à la bataille des deux hommes, rangeait la table avec beaucoup d'art, M. Jaume marcha sur Pierre, le bouscula.
« Pourquoi me l'as-tu amené ?
Ne me poussez pas !
Es-tu son mari ?
Si je n'étais que ça !
Alors, tu m'as trompé ?
On passe sa vie à tromper son voisin.
Insolent, si je te flanquais à la porte !
Elle me suivrait.
Mais non, ne me poussez plus.
Ils se disputaient sourdement vers le vestibule lorsque, par l'extrémité opposée de la salle à manger, l'oncle rentra, son couteau à la main, le poulet de l'autre. Il se haussait fièrement de toute sa longue taille en disant
« Me revoici. C'est pour vous, Mathilde, que j'ai travaillé. Moi, je n'ai pas faim. »«
J'ai faim, moi. Je vous revaudrai ça, mon oncle. »«
Ah, la rusée, la flagorneuse. Vous devez me vouloir quelque chose. Pourtant, vous ne me donnez jamais rien. »«
Et que désirez-vous ?»
Il se pencha sur elle, montra ses dents très grosses, avec une expression d'avidité sauvage qui ridait sa figure et cachait à demi ses yeux.
« Un baiser » murmura-t-il.
Mathilde ne se reculait point. Il tressaillit d'une joie triomphante. Elle se laissa, pour la première fois, embrasser d'un cœur si soumis que l'oncle ne vit plus un moment, dans sa gloire, qu'un essaim d'étoiles sur son front. Guilleret, il s'en fut dans la cuisine en fredonnant. Les deux rivaux s'y querellaient encore. Ébahis qu'ils eussent, dans une fête pareille, l'idée d'une méchanceté, il les interrogea.
« Que vous arrive-t-il, mes amis ?»«
Rien !» clama M. Jaume.
« Si, pourtant, suis-je le patron, moi ?»«
Sans aucun doute. »«
Qui donc a amené madame dans ma maison ?»«
C'est moi. »«
Ah, tu mentais, Pierre, je ne te dois rien. Va-t'en. »«
Non, je reste, ou que madame me suive. Tant qu'elle commandera ici, c'est moi qui serai le patron. Et si vous la touchez devant moi, gare !»
Aha!
M. Jaume, déconcerté par la résolution si ferme de Pierre, regarda le carreau à ses pieds. Les autres, d'un même mouvement d'hostilité ou de dédain, lui tournèrent le dos. Alors, croyant par ses clameurs dissimuler son humiliation, il brandit son corps énorme. Ces ouvriers sont les maîtres du jour. Partout, ils mettent la révolution. Tenez, il vaut mieux que j'aie du bon sens. Il n'osa plus, dans la salle à manger, taquiner Mathilde autour de la table. Il secouait brutalement les chaises, attrapait les verres sur la nappe pour les reposer à leur même place. Désireux cependant d'éblouir ses convives par son luxe, il sortit du buffet tout un régiment d'argenterie, de cristal et de porcelaine. Puis il descendit à la cave chercher les meilleurs vins. Sur un signe de Pierre, on se mit à table. M. Jaume, qui avait passé une journée de paresse dans la paix de son jardin, mangea, but lentement, avec force méthode. En face de lui, Mathilde, un peu rouge, la gorge échauffée, fit honneur au repas que l'oncle avait, en fin gourmet, surveillé pour elle. Dans sa pensée, le monde n'existait plus que dans cette petite salle, brillante d'une lumière d'or, imprégnée des odeurs de la cuisine et des parfums du jardin. Par prudence, néanmoins, elle s'abstenait des excès de la table. Lorsque M. Jaume lui offrait à boire, il rencontrait toujours son verre plein. Pierre, lui, avait vidé le sien régulièrement. Aussi, le Médoc et le Bourgogne noyaient son estomac, battaient en torrent à ses tempes, dans son crâne dur. L'oncle, sous le poids de tant d'émotions et de fatigues, s'était endormi après le premier plat. Mathilde, inspirée par un sentiment de solidarité familiale, le souleva seul entre ses bras, avec tant de douceur qu'il put commodément se coucher sur un fauteuil dans un coin. « À présent, les liqueurs !» s'écria M. Jaume. « À nous, les délices. Après, nous verrons. » Il glissa, pâteau, auprès de Mathilde, de sa chaise sur la chaise de l'oncle. Pierre aussitôt remua ses paupières, pressa ses poings avec rage sur la nappe. Pourrait-il jamais remettre d'aplomb ses jambes brûlantes ? M. Jaume comptait l'avoir réduit à l'impuissance. Déjà, pour une menue caresse, il hasardait ses doigts vers le menton de Mathilde lorsque Pierre, de toutes ses forces, se redressa et, voûtant son dos robuste, rugit « Patron, soyez convenable !»« Ne bouge pas, toi, tu me casserais tout !»« D'abord, écartez-vous de madame, je veux que vous m'obéissiez !» Quoique chancelant contre le bord de la table, Pierre s'avançait, têtu, les joues marbrées de pourpre, les yeux gonflés d'ivresse et de courroux. M. Jaume comprit que, si le brave Sébastien se bornait, en ces moments d'humeur, à des gesticulations et des paroles, ce maçon, au contraire, grossier, terrible, frapperait avec ses poings aussi bêtement qu'avec ses marteaux sur une pierre. Alors, d'une voix calme, il lui dit « Est-ce que cette femme t'appartient ?» « Oui. Depuis quand ? Depuis que je la connais. Il faudra désormais qu'elle vienne avec moi. »« Par exemple, vous ne protestez pas, madame. Je crois que je suis volée. Allons, Pierre, évitons les discussions superflues. » Pour montrer de la civilité, il reprit sa place. Pierre, par une imitation instinctive d'ouvrier et par politesse à l'égard de son patron, revint sur sa chaise. Mathilde n'aimait pas les batailles. En outre, si le bonheur de Pierre lui plaisait, à son corps autant qu'à son âme, elle appréhendait de fâcher en M. Jaume le protecteur, le créancier de son mari. Elle leva sa coupe de champagne avec entrain et les deux hommes, en trinquant, se réconcilièrent. M. Jaume, en verve de générosité, offrit des cigares. Pierre, une fois de plus, se régala, mieux que dans un hôtel, puisque c'était aux frais de son patron. Mathilde reprenait à mesure ses manières de peuple, dans la simplicité du festin plantureux. Les coudes sur la table, elle éclata soudain de rire, avec ironie. Les deux hommes offusqués l'interrogèrent ensemble. « De qui riez-vous ? Sommes-nous ridicules ?»«
Non, pas vous, mon oncle. Regardez-le »
Celui-ci, renversé sur le dossier de son fauteuil, la peau noiraude de son visage tirée comme celle d'un tambour, les bras ballants, dormait ainsi qu'un roi.
« C'est que je veux partir, » reprit Mathilde. « Il dormirait jusqu'à demain. »«
Partir ?» s'effraya Pierre.
« 10 heures sonnaient, malheureux. Que raconterai-je à la maison ? Puisqu'il y a l'oncle.
Il ne jouit pas d'une grande autorité dans sa famille et je ne veux pas perdre la confiance. Allons, debout. »
On eut quelque peine à réveiller l'oncle qui ne savait plus où il se trouvait. Mathilde, à la hâte, s'apprêta, M. Jaume lui tendant son manteau, Pierre son ombrelle. Vite, elle partit la première. Sur la porte de la grille, M. Jaume essaya de l'embrasser. Mais Pierre, bourru, la défendait de sa vigilance. Et M. Jaume, penaud d'avoir encore tant dépensé pour rien, les regarda s'éloigner, tous bien d'accord, par l'allée déserte que, de loin en loin, des becs de gaz troublaient de leur clarté. Au tournant, là-bas, vers Saint-Mandé, il les entendait bourdonner une chanson. Le grand air, en effet, dissipait en eux les fumées de l'ivresse. L'oncle, qui s'était réconforté par un bon sommeil, saisit d'un élan Mathilde par le bras et, tel qu'un étudiant en noce, leva gaillardement la jambe pour danser. Pierre, jaloux de montrer la même autorité, saisit Mathilde par l'autre bras. Ensemble, puissamment noués, ils entonnèrent sans hésitation, à haute voix, la chanson qu'ils avaient bourdonnée tout à l'heure et dansèrent en cadence un carnaval. Comme tous les dimanches, une foule impatiente de rentrer à Paris encombrait la gare. Les convives de M. Jaume y provoquèrent si obstinément du désordre que des grincheux se fâchèrent. Un agent dut intervenir pour la paix de tout le monde. « Allons, messieurs et mesdames, un peu de calme, s'il vous plaît. »« De quoi ?» lui répondit Pierre. « Est-ce que tu viendras nous apprendre ?»«
Ne me tutoyez pas. Tâchez de mesurer vos conversations. »
Vous aussi.
Tais-toi, Pierre, suppliait Mathilde, à qui la crainte d'un scandale rendait la raison. Mais Pierre, que l'oncle soutenait de son mépris envers l'agent, se buta dans sa malice.
Que le policier se taise d'abord. Moi, je suis un citoyen, un électeur.
L'agent, à son tour, s'exalta, piqué dans son amour-propre, devant cette foule de Paris. D'une poigne arrogante, il s'empara des deux rebelles et, malgré leur vocifération, les conduisit au poste de la mairie tout proche. Quelques badauds, en accompagnant le groupe, plaisantèrent sournoisement la jolie dame qui suivait ses hommes avec tranquillité. Au poste, sur une table crasseuse, maculée d'encre et de cirage, le brigadier, un vieux bouledogue à moustache grise, jouait la manie avec ses subalternes. Il grogna d'être dérangé dans sa récréation. Ensuite, il condescendit, non sans peine, à écouter les explications des perturbateurs que les agents, si glorieux de tenir une bourgeoise, ne consentaient pas à relâcher. Mais, à la voix grasse et rapide de Mathilde et de Pierre, le brigadier reconnut l'accent de la Flandre, son pays. Il eut pitié d'eux, par amour de leur terre commune, qu'ils humiliaient sottement dans la vulgarité de cette arrestation. Après leur avoir adressé, ainsi qu'au vieux moricaud du Languedoc, ses remontrances et ses conseils, il obtint de l'agent outragé leur pardon. Les trois camarades, en riant sous cape, sortirent. Cependant, ils marchaient en ordre, sans souffler mot, comme des écoliers en pénitence. À la gare, ils prirent le dernier train, qui, selon l'habitude, était bondé de voyageurs. Pierre dut se caser dans un fourgon. Mais, à la Bastille, il se démena si violemment à travers la foule qu'il put rattraper Mathilde dans l'escalier. Devant ses prétentions de capture définitive, l'oncle se récria. « Croirais-tu, par hasard, débaucher à présent Mathilde chez toi ?»«
C'est à présent surtout qu'il me la faut, » répliqua Pierre.
Celle-ci, laisse, se pencha à son oreille et chuchota.
« Si tu continues, tu ne me verras plus. »
« Oh là ! Oh là ! Bien vrai ?
Je ne suis pas libre ce soir.
Eh bien, embrasse-moi. » Elle lui promit, en récompense de sa docilité, tous les bonheurs prochains qu'il demanda, et en l'appelant son frère, au milieu de la foule étonnée, elle embrassa les joues sonores du maçon comme du pain. L'oncle avait déjà retenu un fiacre. Quelle volupté il éprouva de posséder seul, enfin, dans une voiture presque invisible à travers la nuit bruyante de Paris, la femme dont le contact excitait chaque jour son être rajeuni. Il lui toucha timidement une épaule, puis un genou. Comme elle ne se révoltait pas, il dit sa prière. «
Voyons, ma fille, comprenez-moi. « Non, vous êtes vieux. Ne croyez pas ça. Si vous ne m'accordez rien, taisez-vous, je n'ai pas peur. Même si je vous dénonce, non. »
Elle lui abattit d'un coup de poing sa main inquiète qu'il insinuait trop autour de la taille. Il pleura. Sans s'émouvoir, elle lui fit honte.
« Vous ne pensez donc pas à la mère de Sébastien ?
Et vous ?
Maintenant, oui, le chagrin doit la dévorer.
Ça m'est égal.
Pas à moi. Si vous m'estimez un peu, cherchons ensemble quelle histoire nous pouvons lui raconter pour nous disculper.
Mon Dieu, je vous estime et je ne veux pas qu'on vous sépare de moi.
Nous arriverons bientôt. Cherchons une histoire. »
« On n'a rien à vous refuser, Mathilde. Vous me laisserez parler devant ma sœur, si toutefois elle nous oblige à plaider notre innocence. Fiez-vous à moi. »
Chez eux, ils montèrent à pas discret, tremblant d'angoisse et de fatigue. Si la mère Adèle était couchée, tout de même, que d'ennui on s'éviterait. La pauvre, depuis que la nuit était venue assombrir davantage son âme, dans l'appartement silencieux, elle ne cessait de prier Dieu. Ses soupçons de l'inconduite de Mathilde se précisaient en elle, plus redoutables que des murailles qui menaçaient la probité de son nom et qui enfermaient son fils, elle-même, dans une misère à jamais. Elle songeait peu à l'oncle Alcide, qu'elle avait tant de fois maudit et dont elle avait trop souffert pour en souffrir encore. Au milieu de ses hallucinations, elle n'avait pas le courage de gagner sa chambre. La lampe à demi baissée, dans le boudoir, elle priait Dieu, lorsque la porte lentement s'ouvrit.
« Qui est là ? » s'écria-t-elle.
L'oncle, très doux, répondit « C'est nous autres. » Mère Adèle s'était redressée, une main sur son cœur qui battait en désordre. L'oncle et Mathilde, penauds, fourbus, s'avancèrent.
« Enfin !
Ne t'inquiète pas, ma sœur.
D'où venez-vous ?
Oh, mère, ne nous grondez pas ! »
Et Mathilde, bien qu'avec répulsion, mère Adèle se fût reculée, l'embrassa d'une étreinte sincère en sanglotant. L'élan simple de sa tendresse et de sa grâce étourdit la bonne Adèle qui, dans sa candeur, ne pouvait pas croire au mal. Bouleversées toutes les deux, l'une par le repentir, l'autre par la pitié, elles se reposèrent côte à côte sur des chaises pour gémir et pleurer. L'oncle Alcide, debout, tournant son chapeau entre ses doigts, racontait imperturbablement une histoire. « J'étais allé me distraire dans le bois de Vincennes. Là, j'ai rencontré Mathilde avec l'ancienne amie de son atelier. Nous nous sommes promenés en bande autour du lac Doménil pour faire prendre l'air à l'enfant de cette jeune dame qui est bien comme il faut. Car l'enfant est en convalescence, n'est-ce pas Mathilde ?»«
Oui. »
Alors nous regardions nager les cygnes dans le lac, au-dessous de nous, lorsque le pont de bois, sous le fardeau d'une masse de curieux, s'est écroulé. Nous avons failli nous noyer, ma sœur.
Est-ce possible ?
Parbleu ! Alors nous avons couru chez M. Jaume, à la lisière du bois, nous sécher. Seulement, j'avoue qu'il nous a gardés trop longtemps.
Est-ce vrai, tout ça ?
Parbleu ! Nous n'en pouvons plus.
Si tout ça est vrai, je le crois sans peine que vous avez besoin de vous coucher. « Allons, ma fille !»
Mathilde, le mouchoir sur la bouche, ne bougeait pas, n'osait lever les yeux. L'horreur de ses mensonges, la crainte d'un châtiment, pénétrait plus profond dans son âme. Ingrate et lâche, elle frissonnait de douleur aux consolations si généreuses de mère Adèle qui, peut-être pour l'honneur de sa maison, se laissait tromper. Elle la suivit doucement jusqu'à sa chambre et, de nouveau, avec passion, elle l'embrassa. La porte refermée, elle n'entendit plus, dans le silence de la nuit, que la voix mauvaise de l'oncle qui regrettait d'avoir perdu son dimanche. Elle l'exécra, ce vieux, et parmi les choses de leur entourage, elle ne vit de lait que cette figure de paysan que la vie de province avait remplie d'égoïsme et d'hypocrisie.